Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Bonjour, c'est l'heure du documentaire Et loin des rêves. C'est le cauchemar que vécut le Japon il y a 70 ans que nous allons évoquer. En 1945, les États-Unis lançaient deux bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Au matin du 6 août 1945, le bombardier Enola Gay emporte dans sa soute une bombe à l'uranium de 4 tonnes et demie, surnommée Little Boy. La bombe est larguée à 8h15 sur Hiroshima, ville industrielle où 70 000 personnes sont tuées en raison des incendies consécutifs à la vague de chaleur. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlés et beaucoup d'autres mourront des années plus tard des suites des radiations. France Culture avait, il y a 10 ans, consacré une grande traversée à ces événements. Cette année, c'est Arte qui prend la relève et propose plusieurs documentaires, dont une web-série, Ibakusha, qui propose de découvrir la vie de 6 survivants de la bombe atomique et donne la parole à ceux qui ont vécu l'horreur nucléaire. Les Ibakusha sont le cœur du documentaire que nous vous proposons aujourd'hui.
Hiroshima, le souffle de l'explosion. Michel Pomarède, Gilles Mardi-Rossian. Visage d'Ibakusha. Ibakusha. Traduction mot à mot, victime de la bombe atomique. Ou personne irradiée. Ou fantôme oublié. Ou bien encore monstrueuse statistique. Ou bien être humain, encore vivant malgré les blessures, malgré les brûlures, malgré la morsure des radiations et la morsure qui guette dans le cancer qui ronge leurs corps amaigris, meurtri par les radiations de l'atome, invisible mais implacable, inodore mais sournois. Des êtres humains, vous dis-je, qui, 60 ans plus tard, racontent à visage découvert, dans la beauté de leur vieillesse enfin atteinte, leur jeunesse volée un jour d'été, un matin ensoleillé, un 6 août à Hiroshima. Tamiki Hara, jeune écrivain, est né à Hiroshima. Après des études à Tokyo, il se marie dans la capitale japonaise en 1933, où il réside avec sa femme, jusqu'à la mort de celle-ci en 1944. Angoissé par les bombardements qui s'intensifient à Tokyo, il décide de se réfugier auprès de sa famille à Hiroshima. Le matin du 6 août, il se trouvait aux toilettes au moment de l'explosion. C'est ainsi qu'il eut la vie sauve. Voici un premier extrait de son récit publié en 1947 et intitulé « Fleur d'été ».
Je sortis en ville et achetai des fleurs car j'avais décidé d'aller sur la tombe de ma femme. J'avais mis dans ma poche un paquet de bâtons d'encens pris à l'hôtel familial. Dans quelques jours, c'était la fête des morts, le premier 15 août depuis la mort de ma femme. Et je n'étais plus du tout certain maintenant que ma ville natale resta intacte jusque-là. À cause des restrictions d'électricité, on ne travaillait pas ce jour-là. Et pourtant, je ne vis aucun autre homme se promener en ville comme moi, dès le matin, un bouquet de fleurs à la main. Je ne connaissais pas le nom de mes fleurs, mais un certain charme champêtre se dégageait de leurs délicats pétales jaunes. Elle respirait l'été.
la cour d'une école primaire. Une jeune fille de 11 ans qui obéit aux soldats qui ont pris possession depuis longtemps des salles de classe et qui l'entraîne, elle et ceux de ses camarades qui n'ont pas été encore évacués en dehors de la ville, à marcher au pas en file indienne et à porter le drapeau. 60 ans plus tard, une femme à la chevelure brune, à la peau d'un rose passé presque transparent, des yeux très mobiles. Cette femme se retourne vers cette jeune fille. Elle lui tient la main pour commencer le récit. Reiko Yamada, c'est le nom de cette femme. Elle parle.
Ce jour-là, il faisait très chaud. Le ciel était limpide, sans nuages. À cause de la chaleur, nos professeurs nous avaient donné l'ordre de prendre un peu de repos. Et j'étais allée jouer dans le bac à sable avec des amis. Et à ce moment-là, cinq garçons, très excités, ont commencé à pointer leurs doigts vers le ciel en criant « Voilà les B-29 ! Les B-29 !» Nous les connaissons très bien, les avions des raids américains, car ils survolaient souvent le pays. Comme ils volaient très haut, aucun tir de la DCA japonaise ne pouvait les atteindre. C'était vraiment les avions d'élite. Et moi aussi, j'ai levé les yeux et j'ai vu un avion qui traçait dans le ciel la lettre U. C'était très beau.
Mikizo Iwasa avait 16 ans. Et ce jour-là, c'était jour de congé. Il n'irait pas à l'usine pour fabriquer des armes comme tous les jours pour soutenir l'effort de guerre. Non, il resterait dans le potager de la maison, peut-être pour rêvasser. Quand il commence à parler, le vieil homme blanc, tout blanc, les cheveux, les sourcils, les mains, tout est blanc. Les mains surtout s'agitent.
Ce jour-là, les cigales chantaient. Le ciel était clair et limpide. Il était à peu près 8 heures. Je ne sais plus l'heure car je n'avais pas de montre. Vers 8 heures donc, j'ai entendu, venant du nord, le bruit des avions. Et dans la rue devant chez moi, des enfants ont commencé à crier « Voilà des avions, voilà des avions !»
Une autre école élémentaire, pas dans le même quartier. Un autre enfant, un garçon, a la bouille toute ronde. Sa famille restait à la maison. Sa famille au complet, c'est 8 personnes. Mais ce jour-là, sous un même toit, il y avait son père, sa mère, sur le point d'accoucher, sa grande sœur et son petit frère. Il s'appelle Kaiji Nakazawa. Aujourd'hui, son visage garde encore les rondeurs de l'enfance. Ses yeux sont tellement plissés que par moments, on dirait qu'ils sont fermés. Pourtant, eux aussi ont vu.
J'étais parti à l'école. Je discutais avec la gardienne devant l'entrée. Et c'est alors que les B-29 sont arrivés dans le ciel. Je les ai aperçus, je me suis dit, ce sont des B-29.
Kyoko Ishikawa est la sœur aînée de Reiko, vous savez, la jeune fille de 11 ans qui joue dans le bac à sable de son école primaire. Ce jour-là, elle attend son train pour aller Dieu sait où. Les deux sœurs s'apprêtent à traverser la même épreuve, à distance. Cette distance est toujours présente aujourd'hui. Elles n'ont jamais reparlé ensemble de ce moment-là. Mais la sœur aînée, aussi brune que sa cadette, encore plus souriante mais tellement timide, a accepté de nous parler. Elle est sortie de son silence, un silence de 60 ans.
J'étais à la gare d'Hiroshima, sur le quai numéro 8. Nous étions trois, assis l'un à côté de l'autre. C'est là que nous avons entendu les avions. Et alors que nous nous disions « Oh, c'est encore un raid », les B-29 sont arrivés.
Encore plus loin du centre d'Hiroshima, un adolescent de 15 ans, mobilisés sur un terrain de manœuvre militaire. Grand, fin comme aujourd'hui, élégant, racé. Voilà, c'est Ikuo Hirayama.
À 8h et quelques, les B-29 ont traversé le ciel de la ville. Il y avait 3 appareils. Alors que je les regardais, j'ai aperçu des parachutes qui étaient largués. Un ami était dans une remise et j'ai voulu m'y rendre pour le prévenir du raid des avions américains.
Le visage tourné vers le ciel bleu où progressent les B-29, Reiko, Kyoko, Kaiji, Mikuzo et Ikuo vont bientôt fermer les yeux.
Je contemplais ce beau spectacle et puis, tout d'un coup, je n'ai plus rien vu. Tout est devenu blanc.
Aucune sirène n'a retenti. Et alors que je discutais avec cette dame et que je m'étonnais de l'absence de sirène, il y a eu un grand éclair. C'était tout blanc au centre, puis d'une couleur d'un bleu blanchâtre, légèrement argenté. Enfin, la périphérie était rouge-orangé. C'était une énorme boule de feu. Et puis, ce fut le noir total. Quand j'ai rouvert les yeux, les murs de l'école étaient tordus et la femme avec qui j'étais a été projetée du côté des rails du tramway. Elle était toute noire.
Ils ont lâché la bombe et j'ai été bousculée, projetée sur la voie de chemin de fer. Un ouvrier m'a aperçu alors que j'étais couchée sur le ballast et il m'a emmenée vers les bâtiments de la gare. Mais il m'a laissée dans un champ de patates douces. Je ne me sentais pas bien et je suis donc restée allongée là. Mon amie est venue me chercher et elle m'a dit qu'il ne fallait pas rester là à cause des raids aériens. Et on est parti vers la ville voisine d'Enomiya. En chemin, nous avons vu une grande maison. J'avais tellement soif que j'ai dit que je voulais m'arrêter pour boire et pour rester dormir sur place. Mais mon ami m'a répondu que si je m'endormais, j'allais mourir, qu'il ne fallait pas boire. Mais moi, j'avais tellement soif, elle m'a interdit de boire la pluie noire qui était tombée, car elle devait être contaminée. Elle m'a soulevée et quasiment traînée de force vers la ville voisine, où était sa maison. C'est à ce moment-là que j'ai vu le nuage qui montait vers le ciel en forme de champignon. Ça, je l'ai vu.
Dans cette remise, il faisait sombre. Et brusquement, j'ai vu une sorte de fumée jaune. Un flash. Un éclair énorme. Et juste après, j'ai senti la chaleur et le souffle de l'explosion.
À la seconde suivante, juste après que les enfants aient crié, j'ai eu le sentiment de recevoir un violent coup derrière la tête. Je suis tombé par terre. Je n'entendais plus le chant des cigales. Puis je me suis réfugié dans une piscine et j'ai attendu que le feu passe. Il n'y avait que là que je pouvais trouver refuge. Et si le sinistre avait gagné aussi cet endroit, j'aurais été piégé avec les 50 autres personnes qui s'y retrouvaient aussi. On s'enroulait dans un tissu ou dans une couverture. Par moments, il y avait de petites étincelles qui tombaient dans l'eau. Ce n'était pas de grandes flammes, Parce qu'on était à l'écart de la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en une seconde, la ville a été anéantie. On ne comprenait pas. La ville brûlait, et j'ai entendu par moments des explosions. Ça devait être de l'essence. Accompagné du bruit du feu. Ça, je l'entendais bien.
Un flash de lumière au-dessus d'Hiroshima, et la ville est en feu. Les garçons et les filles, encore enfants ou adolescents, dont nous écoutons le récit, ne le savent pas encore. Mais en un instant, ils ont perdu une part d'eux-mêmes. Leur identité, leur innocence. Ils vont devenir, dans le regard des autres, les survivants, les victimes, les Ibakusha, ceux qu'on ne veut pas regarder en face, ceux dont le visage dérange. Peut-être parce que dans leurs yeux, on peut encore aujourd'hui lire l'enfer.
Nous autres enfants, nous nous sommes enfuis vers un abri. Le sable incandescent me brûlait le dos et j'ai trébuché dans la cour. Un saule menaçait de me tomber dessus. Mais j'ai réussi à rejoindre mes camarades vers un abri. Nous n'avons pas pu y entrer, car il était rempli de gens. À ce moment-là, le ciel bleu avait déjà disparu, remplacé par un ciel gris, chargé de nuages. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Nous étions tous trempés par cette pluie. C'était une pluie noire. Peu après, notre école a été envahie par des habitants brûlés qui fuyaient. Nous avons alors couru tous vers nos maisons. La mienne n'avait pas été détruite, mais les murs étaient éventrés. Il ne restait que le toit et la charpente. Si vous regardez sur cette carte, à 2 km de l'hypocentre, tout a été brûlé. Et les blessés se sont enfuis vers les collines. Et très vite, notre quartier a été submergé par les survivants. Les rues étaient jonchées de cadavres et on ne pouvait plus avancer. Moi, je suis retournée vers ma maison qui était en ruine. Ma mère n'était pas là. Il n'y avait personne. J'ai pleuré en appelant « Maman ».
À cause de la violence du souffle de l'explosion, j'ai vu des gens avec des yeux qui étaient sortis de leur orbite. Et ils étaient brûlés.
J'ai laissé ma mère mourir et je l'ai abandonnée au feu. Je ne pensais qu'à ça dans ma tête. Et ce jour-là, j'ai passé la nuit sur une colline, près d'une rivière. Et de là, j'apercevais Hiroshima. Et ce spectacle, c'était comme si la ville entière avait été engloutie.
Sous une coulée de lave.
Le brasier sur la rive en face s'intensifia. La chaleur arrivait jusqu'à nous. Je trempai alors mon coussin dans l'eau de la rivière remplie par la marée haute et m'en couvris la tête. Attention à un bombardement, que tous ceux qui ont des vêtements clairs se cachent sous les arbres. Les uns derrière les autres, les gens rampèrent jusque dans les forêts. Le soleil tombait d'aplomb et il me semblait bien que le feu avait pris au-delà des buissons. Je retins mon souffle un instant, mais comme apparemment il ne se passait rien, je retournai vers la rivière. Sur l'autre rive, le feu continuait de plus belle. Un souffle brûlant passa sur ma tête. Une fumée noire arrivait comme projetée en avant jusqu'au milieu de l'eau. Le ciel venait subitement de s'assombrir quand une pluie terrible, aux gouttes énormes, s'abattit sur nous. La chaleur de l'incendie en fut un peu tempérée. Mais peu après, le ciel redevint clair, sans trace de nuages. Sur la rive opposée, le brasier continuait. Du côté de la rivière où j'étais, j'avais déjà retrouvé mon frère aîné et ma jeune sœur, ainsi que deux ou trois voisins au visage connu. Ainsi réunis, chacun raconta aux autres ce qui lui était arrivé le matin.
Alors que je cherchais ma mère, je l'ai retrouvée. Elle était assise sur un matelas, entourée d'ustensiles de cuisine, et à ses pieds une boule de chiffon. Heureux de l'avoir retrouvée, je me suis assis à côté d'elle. Et c'est alors que j'ai vu que cette boule de chiffon, c'était un bébé. Ma mère avait accouché le jour de la bombe atomique. C'était une petite fille. Elle l'a appelée Tomoko, mais au bout de 4 mois, elle est morte de malnutrition. Alors que nous étions assis en silence avec ma mère, elle a commencé à parler de mon père et de mon frère. Avec ma sœur, ils étaient dans la maison et se sont retrouvés écrasés sous les décombres. Mon frère se trouvait dans l'entrée, la tête coincée sous un amas de pierres. Ses pieds dépassaient. Mon père était dans une autre pièce et hurlait à ma mère, « Fais quelque chose !» Quant à ma grande sœur, elle n'émettait plus un son. Sans doute était-elle déjà morte. Ma mère avait essayé de les aider. Elle avait tiré sur les jambes de mon frère, mais sa tête restait coincée. Ma mère voulait au moins sauver mon frère. En s'aidant d'une pelle qu'elle utilisait comme un levier, elle avait tenté de le libérer. Mais en vain, c'était trop difficile pour une femme. Et au début, il hurlait « J'ai mal, j'ai mal ». Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler « J'ai chaud, j'ai chaud ». Ma mère s'est relevée, elle a vu l'incendie qui se rapprochait. Et comme si elle avait perdu la tête, elle s'est mise à hurler en serrant mon petit frère dans ses bras. « Maman va mourir avec vous, nous allons tous mourir ensemble ». Ma mère s'est agenouillée, impuissante. Maman va mourir avec vous. Par bonheur, des voisins l'ont trouvée. Et ils lui ont dit, « Madame Nakazawa, il faut les abandonner. Vous n'avez pas à mourir avec eux. » Et de force, ils l'ont emmenée à l'abri. Ma mère, en partant, a vu la maison emportée par le feu. Dans les flammes, elle a entendu la voix de mon petit frère qui répétait « Maman, ça brûle, ça brûle !» Et celle de mon père qui demandait « Fais quelque chose !» C'est ainsi que mon père, mon petit frère et ma sœur sont morts dans les décombres de la maison.
Sur l'autre rive, le feu, un moment calmé, avait repris. Maintenant, on voyait une fumée noirâtre s'élever au milieu du brasier rouge. Et cette masse noire se développait, s'étendait furieusement. La chaleur de l'incendie augmentait à chaque instant. Mais ce feu sinistre, après avoir brûlé tout ce qu'il pouvait, se transforma finalement en un désert de décombres. C'est alors que, juste au milieu de la rivière, un peu plus bas, je vis se déplacer vers nous une énorme couche d'air, transparente, tout agitée d'oscillations. J'eus à peine le temps de penser à une tornade que déjà un vent d'une violence terrible passait au-dessus de ma tête. Toute la végétation alentour se mit à trembler et presque au même instant, la plupart des arbres furent arrachés du sol et emportés en l'air. Dans leur folle danse aérienne, ils allèrent se ficher comme des flèches dans le chaos ambiant. Je ne me souviens pas vraiment de la couleur du ciel à ce moment-là. Mais je crois qu'il était voilé d'une lumière verte et lugubre, comme dans ce fameux rouleau qui représente l'enfer. Après le passage de la tornade, à la couleur du ciel, on devinait le soir.
Cette première nuit, le ciel d'Hiroshima était rouge de l'incendie de la ville. Le lendemain, c'était la même chose. Et le troisième jour, le ciel était partagé. La ville était rouge, la montagne était redevenue noire. Hiroshima a brûlé ainsi pendant 3 ou 4 jours. Au matin du deuxième jour, la ville était remplie d'un brouhaha de gens qui cherchaient leurs proches. Où êtes-vous? Êtes-vous par ici? Le troisième jour, enfin, dans la deuxième nuit, ma sœur aînée nous a rejoints, couverte de brûlures au dos et au cou. Nous avons enlevé les habits de ma sœur, mais nous n'avions pas de médicaments. Elle ne faisait que pleurer. Ma mère a rapporté un concombre du jardin des voisins et elle l'a coupé en fines rondelles qu'elle a appliquées sur les blessures de ma sœur. Mais à cause de la chaleur, le concombre pourrissait et les mouches venaient donc voleter sur son corps. Plus elle souffrait, plus elle pleurait. Nous avons essayé d'éloigner les mouches avec un éventail. Le troisième jour, ma mère nous a chargé, ma sœur de 13 ans et moi, de retourner chez nous, chercher des affaires, puisque nous étions partis les mains vides. Sur la route, il y avait beaucoup de cadavres, et parmi eux, il y avait une chose. En fait, un homme tout noirci, qui se tenait debout. Son visage était méconnaissable. Et ma sœur et moi étions si dégoûtés que nous avions dévié notre route. C'est alors qu'il a prononcé le prénom de ma sœur. Nous avons été surprises, mais nous ne pouvions pas reconnaître le visage. Ma sœur s'est enfuie et moi je l'ai suivie en courant. Lorsque nous sommes repassés au retour, tous les corps avaient été incinérés dans la cour de notre école. Jusqu'à aujourd'hui, ma sœur et moi, nous gardons le souvenir de cet homme que nous n'avons pas écouté alors qu'il nous demandait de l'aide. Comme cet homme, il y a eu environ 1500 personnes dont l'appel n'a pas été entendu et qui ont été brûlées comme des détritus. Dans chaque famille, plusieurs membres ne sont pas rentrés ou ont été blessés. Tout le monde a été touché. J'avais une amie avec qui je jouais souvent et qui avait un an de plus que moi. Elle a attendu avec ses quatre frères et sœurs que sa mère revienne. Elle est revenue le deuxième jour, toute noire, et s'est effondrée à leurs pieds. Au départ, ils ont cru que c'était un chien noir, mais en regardant mieux, ils se sont aperçus que c'était leur mère. Ils ont ramassé du bois et l'ont incinéré dans leur jardin.
Fin septembre 1945, les premiers Américains sont arrivés à Hiroshima. Mais ils n'ont pas fait un geste pour aider les victimes. Ils ont pris les mesures, les radiations, mais... En aucun cas n'ont soigné les personnes irradiées.
En 1948,
les Américains ont fondé la Commission pour les victimes de la bombe atomique, l'ABCC. Et ils ont procédé à des analyses médicales sur les Hibakusha. Tous les résultats de cette enquête ont été emportés aux États-Unis. J'ai vécu la douleur d'avoir perdu ma mère et ma petite sœur. Je me disais, s'il n'y avait pas eu la guerre et la bombe atomique, on n'en saurait pas là. En septembre 1945, je suis tombé malade. Comme la ville était détruite, il n'y avait ni médecin ni médicaments. Par chance, il y avait un dentiste près de chez ma tante. Il m'a fait 5 ou 6 piqûres. Et c'est grâce à cela que j'ai pu être sauvé. J'ai ensuite développé d'autres maladies. Et c'est à partir de 1947 que certains médecins japonais ont commencé à donner des soins aux irradiés d'Hiroshima. Et l'ampleur des séquelles était telle que beaucoup sont morts. De 1947 à 1953, je suis allé à l'école et j'étais diplômé de l'université. Pendant cette période-là, j'ai pu discuter de tout ça avec mes professeurs et des amis.
Pour que les blessures de la bombe disparaissent, il a fallu plusieurs années. C'est après que j'ai enfin pu mener une vie paisible. C'est seulement depuis 10 ans que je peux aller aux manifestations dans le parc de la paix. La guérison a été longue, d'autant qu'il n'y avait pas de médecin. Peut-être a-t-elle duré 4 ou 5 ans.
Monsieur, est-ce que quand vous avez rencontré votre future femme, vous saviez qu'elle avait été exposée aux radiations atomiques? Et est-ce que ça posait un problème ou est-ce que ce n'est pas une question qui s'est posée entre vous?
Je me suis marié en novembre 1949, 5 ans après la bombe atomique. Et à ce moment-là, les blessures avaient été bien soignées. Cela ne posait pas de problème particulier. Mais elle a été brûlée au dos et il lui reste encore des cicatrices à cet endroit. Ça a dû être très douloureux. Vous savez, la peau pèle et il faut l'arracher en plusieurs fois pour qu'enfin cet épiderme noir disparaisse.
Certains Ibakusha racontent qu'ils hésitaient à avoir des enfants parce qu'ils pensaient que peut-être si l'un ou l'autre ayant été irradié, l'enfant pourrait être anormal. Est-ce que c'est une question à un moment qui s'est posée pour vous deux?
Nous avons eu en effet un peu d'inquiétude à ce sujet. Surtout, nous avons craint qu'un enfant naisse avec les séquelles de la maladie atomique. Mais nous avons chassé cette pensée. Elle n'est pas restée très longtemps dans notre esprit.
Monsieur, vous êtes le fils de Kyoko. À 10 ans, votre mère vous a raconté ce qu'elle avait vécu à Hiroshima. Les écoles au Japon envoient régulièrement leurs élèves, notamment à Hiroshima, au Musée de la Paix. Vous, à 10 ans, qu'est-ce que vous saviez de plus ou qu'est-ce que vous aviez compris de plus de l'histoire de votre pays que vos camarades ?
À 10 ans, quand ma mère m'a raconté ce qui lui était arrivé, j'ai eu un petit choc. Vous savez, tout près, il y a le parc de la paix, mais j'étais incapable d'y aller. Or, à cette époque-là, mon école a organisé une visite sur place. J'y suis donc allé une fois et je n'y suis jamais retourné.
Certains Ibakusha racontent qu'ils étaient mis à l'écart, qu'ils devaient rester silencieux, que certaines personnes se moquaient d'elles ou d'eux. Vous, étant fils d'une femme qui a été irradiée, est-ce que vous avez senti ça, vous avez tu ça? Est-ce que vous avez pu en parler librement à vos camarades ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez gardé le silence sur le fait que votre mère avait été irradiée?
Non, à Hiroshima, il y a beaucoup d'Ibakusha, donc beaucoup d'enfants ont des parents qui sont des victimes des radiations. Mais en ce qui me concerne, je n'en ai pas beaucoup parlé. Avec le jour, les gémissements de la nuit s'étaient tus. Mais il me semblait encore entendre cette voix agonisante qui vous tordait les entrailles. Les alentours s'éclaircissaient et une brise matinale se levait. Mon frère aîné et ma jeune sœur retournèrent vers les restes incendiés de notre maison. Et mon second frère se dirigea vers le champ de manœuvre de l'Est, où il avait entendu dire qu'il y avait un centre de soins. Moi-même, je me préparais à y aller, quand un soldat qui était à côté de moi me demanda s'il pouvait m'accompagner. Il devait être gravement blessé, ce grand soldat, qui, même accroché à mon épaule, avançait peureusement, un pied après l'autre, comme s'il transportait quelque chose de très fragile. Et sous nos pieds, des débris, des cadavres fumaient encore. C'était atroce.
Revivre pour un Ibakusha comme vous, c'était rester dans le silence. Comment est-ce que vous avez vécu à la fois dans la souffrance et dans le silence pendant toutes ces années ?
J'ai longtemps gardé le silence. Je suis entré à l'école des Beaux-Arts de Tokyo, puis j'en suis sorti. Je suis devenu assistant, puis professeur. Ensuite, j'ai commencé la peinture. Mais au départ, je n'ai bien sûr rien dit sur mon état, sinon j'aurais dû m'arrêter tout de suite. J'ai décidé de peindre des tableaux qui évoquaient la paix. J'ai dépassé le réalisme lié à l'enfer que j'ai vécu pour espérer la paix. C'est avec ce sentiment-là que je peins. Je n'ai fait qu'un seul tableau sur Hiroshima.
Donc 1979, le titre c'est « L'Holocauste à Hiroshima ». Est-ce que vous pourriez prendre un petit moment pour me décrire précisément à la fois la peinture et à la fois l'état dans lequel vous étiez quand vous avez peint cette peinture ?
Pourquoi est-ce que j'ai peint cette toile ? Vingt ans après, le 6 août 1965, je suis retourné sur place. Pendant 20 ans, je n'y étais pas allé. Je n'en avais pas envie. Pour ce premier retour, je suis allé au mémorial de la paix. Et j'ai vu une flamme qui brûlait. Lorsque j'ai fermé les yeux, cette flamme est restée en image. Progressivement, est apparu dans mon esprit le paysage d'Hiroshima en
flammes.
Je suis retourné 20 ans en arrière. Aujourd'hui, Hiroshima a ressurgi de ses cendres. Tel le phénix ressuscité. C'est dans cet esprit que j'ai peint ce tableau.
Dans l'angle droit de cette peinture, il y a ce dieu que vous baptisez Fudu Miyo, qui regarde la ville à feu et à sang, mais sans intervenir. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, Dieu est mort ?
En fait, c'est lui le phénix. Hiroshima a brûlé et a ressuscité. Cette résurrection est aussi la survie des sentiments des disparus. Ce dieu du feu ne peut pas disparaître dans les flammes.
Keiji Nakazawa, vous êtes l'auteur de la série de manga qui s'appelle Gen d'Hiroshima, qui raconte donc l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Gen, qui est né à Hiroshima, provoqué, dites-vous, par la mort de votre mère. Dans quel état vous êtes quand vous commencez à griffonner des choses qui sont votre histoire, mais l'histoire aussi du pays meurtri ?
J'ai fui la bombe atomique pendant des années. Mais lorsque ma mère est morte et que même ses os ont disparu, j'ai senti une colère monter en moi. C'est alors que je me suis dit, je vais tout dire sur Hiroshima. Je vais montrer ce qu'était la bombe. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire un premier volume de manga sur la pluie noire. Puis j'ai continué jusqu'à Gen d'Hiroshima. Je me suis mis à traquer la bombe atomique avec mes crayons. Je ne peux pas encore pardonner aujourd'hui à ceux qui ont lâché cette bombe. Je porte une haine contre eux. Je pense que les Américains ont utilisé la guerre pour procéder à des expériences nucléaires et je ne peux pas leur pardonner.
Le manga, c'est un genre assez apprécié par la jeunesse. Est-ce que le vôtre, qui traite donc d'Hiroshima, c'est aussi un moyen de toucher cette jeunesse, de transmettre quelque chose de votre histoire, mais aussi de l'histoire de votre pays, pour que cette jeunesse, peut-être moins au fait que les générations précédentes, prennent conscience de cette histoire dans toutes ses acceptions ?
Je reçois beaucoup de courriers de la part de mes lecteurs. Et la plupart me disent qu'ils n'avaient pas imaginé que la guerre et la bombe atomique étaient aussi terribles que ça. Ils ont découvert que la bombe atomique était une tragédie. Et ils m'encouragent à poursuivre mon œuvre.
D'avoir des enfants, qu'est-ce que vous transmettez ou qu'est-ce que vous racontez maintenant que vous savez tout ça, que vous avez un peu de recul, aux nouvelles générations de cette tragédie d'Hiroshima ?
Je n'aborde pas souvent le sujet. Mais comme j'habite à Hiroshima, je parle de l'événement en tant qu'élément de l'éducation à mes enfants.
Tous les 6 août, il y a les commémorations officielles sur l'esplanade devant le musée. Mais est-ce que vous pensez que le Japon en fait assez par rapport justement à la mémoire, par rapport au passé et par rapport aux paroles des Hibakusha ?
Le 6 août 1945, je n'étais pas à Hiroshima. Mais de temps en temps, je me rends au parc de la paix. Le nombre de fois doit se compter sur les doigts d'une main. En fait, je ne peux pas sentir profondément le drame parce que... Bien sûr, je n'ai pas été irradié. À Hiroshima, tout a été détruit en une seconde. Et je ne veux plus que cela se reproduise. Une chose est sûre, je ne veux plus jamais qu'il y ait la guerre.
Et vous, madame, le 6 août, le jour où sont commémorées les victimes de la bombe atomique, est-ce que ça réveille quelque chose en vous, ce jour-là ?
Je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Dans tous ces détails, je ne l'oublierai jamais. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites. Jamais je n'oublierai.
Est-ce que votre silence, c'est une prière pour les morts ?
Je prie à la mémoire des disparus. Chaque année, le 6 août, je regarde la télévision et je prie. Mais je n'y pense pas vraiment toute l'année. Et surtout, je ne veux pas qu'il y ait de grandes manifestations pour ce jour-là.
Votre corps a été blessé et garde encore les traces de ces blessures. Votre âme a sans doute été blessée aussi. Est-ce que vous sentez qu'elle a guéri ou pas ?
Oui, aujourd'hui je me sens guérie.
Hiroshima, le souffle de l'explosion. Visage d'Ibakusha. Merci à Reiko Yamada, Kaiji Nakazawa, Ikuo Hirayama, Mikizo Iwasa, Kyoko Ishikawa, ainsi qu'à son mari Tatsuo et son fils Kazushi. Traduction des témoignages et lecture, Emina Tonnelier avec aussi Shotaro Tachibana. Texte dit ce soir par Didier Doué et Emmanuel Gutiérrez. Coordination au Japon, Christine Sibert. Sur les docks, attachée d'émission Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Prise de son et mixage, Michel Kreis. Réalisation, Gilles Mardi-Rossian. Un documentaire de Michel Pomarède.